Chapitre 16. Un grand jardin clos est un domaine magique et un paradis pour un enfant. Et le jardin tropical que mon père avait réussi à créer autour de la maison était mystérieux et ombreux à souhait, pour abriter mes songeries de petite fille rêveuse. Il y avait de grands arbres majestueux, mais aussi des arbustes et des plantes grimpantes qui se couvraient de fleurs aux vives couleurs, bougainvilliers, orgueil de Chine, flamboyants, et aussi des massifs de fleurs tropicales, canards, oiseaux de paradis, hibiscus. J'aimais les cueillir, soit pour en faire des bouquets, soit pour m'en parer quand je jouais à la princesse. J'avais élu un coin secret dans un espace ménagé entre le tronc d'un bougainvillier et le mur sur lequel il grimpait. J'aimais m'y réfugier avec un livre. Souvent, Mousse venait m'y rejoindre et trahissait ma présence par ses ronronnements. C'est d'ailleurs la plupart du temps ainsi que Biguet parvenait à me dénicher. Quand son travail lui en laissait le loisir, la Fatou venait souvent me rejoindre au jardin. Elle aimait aussi cette végétation luxuriante. Et elle me parlait toujours avec nostalgie des plantes qui croissaient en Casamance. Surtout des palétuviers, dont le souvenir lui faisait monter les larmes aux yeux. Elle me disait aussi les fêtes animistes qui s'y déroulaient certaines nuits de pleine lune et évoquait le battement lancinant des tam-tams qui accompagnaient les danses rituelles. Elle m'affirmait qu'aucun blanc n'était autorisé à assister à ces cérémonies et même qu'il serait dangereux pour lui de s'y égarer. Il y avait au fond du jardin un grand studio occupé par l'un des adjoints de mon père. Celui-ci avait un perroquet. C'était un animal antipathique, qui non seulement refusait de parler, mais attaquait et mordait cruellement avec son bec coupant tous ceux qui s'approchaient. Je le détestais. Mousse ne cessait pas de se cacher dans ses environs et, bien tapis, de l'observer. Je n'aurais pas été fâchée qu'elle en fît son déjeuner. Mais jamais elle ne s'en approcha à moins de quelques mètres. Elle devait instinctivement sentir sa méchanceté. Mousse m'émerveillait par son agilité. Pour gagner le jardin, elle ne passait jamais par la porte et les escaliers. Mais elle sautait du haut de la terrasse, dans un oranger, puis dévalait le tronc de l'arbre pour aller à sa promenade. Il arrivait aussi que, grimpant dans le manguier, elle franchit le mur qui nous séparait des jardins voisins pour partir en exploration. Mais un soir, elle ne revint pas. Sa fugue me bouleversa. Mes parents, eux, se montrèrent moins inquiets. La chatte était en chaleur et ils étaient persuadés qu'elle ne tarderait pas à regagner la maison. Peut-être attendait-elle des petits chats, m'affirmèrent-ils. Plus d'une quinzaine de jours s'écoulèrent et Mousse ne revenait toujours pas. J'étais de plus en plus angoissée. Mes parents aussi. Nous craignions que la chatte ne se soit fait écraser par une voiture. La maison donnait sur une grande place face à la gare Dakar-Niger. À cet endroit, une animation et un trafic permanent régnaient, qui étaient générés par l'arrivée et le départ des trains. Des petits marchands circulaient, leur étal de cigarettes ou de bonbons, autour du cou, courant à toutes jambes vers les clients qui les appelaient. Il y avait aussi de nombreuses allées et venues de voitures automobiles et surtout de charrettes peintes, sur lesquelles trônaient des matrones en boubou bariolé et tirées par de petits chevaux nerveux. Il était évident que si notre Mousse, accoutumée à la tranquillité des jardins, s'aventurait dans cette cohue, elle s'affolerait et se jetterait sous les roues du premier véhicule qui passerait. Heureusement, un matin, alors que je partais pour le lycée, je trouvai Mousse, blottie sur le palier. Elle se précipita vers sa gamelle et dévora la nourriture que je lui versais. Elle mourait de faim et de soif. Ses flancs amaigris étaient cependant alourdis par les petits qu'elle portait. J'étais très heureuse et j'attendais avec impatience la naissance des chatons. Mais Mousse m'y bat de nuit et je n'y assistais pas. Je dormais. Mes parents se levèrent et durent appeler le vétérinaire car la délivrance se passa mal. Le lendemain matin, ils me dirent que tous les chatons étaient morts. Je crus toujours qu'ils m'avaient menti et qu'ils s'étaient débarrassés des bébés de Mousse dès leur naissance. Cette histoire de vétérinaire venant de nuit me paraissait inventée. Et au matin, Mousse ne semblait pas plus malade qu'à l'ordinaire. Elle reprit même bientôt ses sauts acrobatiques depuis la terrasse pour gagner le jardin. Un jour, elle franchit à nouveau le mur en grimpant dans le manguier. Nous ne la revîmes plus jamais.